Bonjour, vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noa Osez le dire. Je vous rappelle que cette association est une ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes qui subissent des violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h sans interruption. Vous pouvez également consulter notre site internet noaosezledire.fr et je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 01 47 07 39 55 01 47 07 39 55. Je vous rappelle également que vous pouvez désormais trouver sur notre site internet l'enregistrement du colloque du 26 novembre 2012 si vous n'avez pas pu y assister. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Elisabeth Steiner qui connaît bien le problème des violences conjugales et qui va nous faire une petite rétrospective des lois en vigueur et des qui se passe dans ce domaine. Alors Elisabeth, bonjour.
Bonjour Nicole, bonjour à tous.
Alors, il y a des états généraux du droit de la famille qui se tiennent chaque année fin janvier. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe à cet état généraux ?
Alors, les états généraux sont organisés par le Conseil national du barreau français et réunissent chaque année plus de 2000 avocats qui viennent se former. Et cette année, clairement, ces états généraux étaient placés sous un axe nouveau qui est l'axe de la transaction. On va de plus en plus vers des procédures amiables, des procédures de médiation, des procédures de droit collaboratif également. C'est très nouveau en France, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Le droit collaboratif, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, finalement, c'est un accord qu'on va passer entre les clients en présence de leurs avocats et qu'on va demander au juge d'homologuer à la fin. Donc, on ne va pas remettre son destin entre les mains d'un juge qui a très peu de temps, finalement, pour étudier le dossier, mais on va tout faire en amont de façon à préserver les intérêts de chacun et surtout à apaiser les conflits familiaux.
Donc c'est un travail supplémentaire qui est demandé aux avocats.
En quelque sorte, oui, c'est-à-dire que c'est un travail nouveau pour nous. On ne va pas simplement défendre notre client, mais on va rechercher un terrain d'entente. Et c'est-à-dire que c'est un travail d'équipe, finalement, entre les conjoints et leurs avocats qui vont établir une convention qui devra donner satisfaction à tous.
Donc le juge intervient ensuite lorsque vous avez trouvé un accord.
Voilà, lorsqu'on a trouvé un accord ou lorsqu'on a pratiquement trouvé un accord et qu'il reste seulement quelques sujets à trancher, on soumet au magistrat les accords qu'on a déjà trouvés pour qu'il homologue ces accords ou qu'il tranche les questions résiduelles.
Et alors, quels sont les résultats de cette procédure ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça
Alors, ça commence. Ça commence à entrer dans les mœurs, je dirais. C'est déjà entré dans les mœurs en droit des affaires. Ça commence à entrer dans les mœurs en droit de la famille. C'est assez nouveau. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est bien pour tout le monde et pour les enfants en premier lieu, puisque l'objectif est d'apaiser le conflit en premier lieu.
Et alors, lors de ces états généraux, hormis ce point nouveau qui a été développé, est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous avez parlé, qui sont en cours de préparation ?
Alors, ce dont on parle, je dirais qu'il n'y a pas véritablement de grande réforme, hein, puisque la réforme du divorce, elle date de 2004, elle est entrée en vigueur en janvier 2005. La nouveauté, c'est qu'on pacifie énormément les procédures, on essaie de trouver des terrains d'entente grâce à des procédures plus courte. Donc ça, si vous voulez, c'est une nouveauté pour nous, mais ça fait déjà quand même 7 ans que c'est entré en vigueur. Et puis, nous avons l'occasion, donc lors de ces états généraux du droit de la famille, nous autres avocats, de nous former. Et c'est un petit peu l'objectif, c'est-à-dire qu'on suit des cours, on retourne à l'école pendant 2 jours, et c'est très agréable. On retourne sur les bancs de l'université, en quelque sorte. Ça se passe à la Maison de la Chimie à Paris, dans un très beau lieu. On se retrouve tous ensemble et on est formés par des notaires, par des profs d'université, par des avocats. Et là, c'était encore une fois extrêmement intéressant de pouvoir actualiser nos connaissances et de pouvoir rencontrer d'autres confrères pour confronter un petit peu nos points de vue sur notre pratique du droit de la famille.
Moi, je crois que c'est très important pour nos auditrices et nos auditeurs de savoir que ça existe, hein, parce que c'est effectivement la médiation par les avocats, c'est quelque chose de très nouveau et que ça peut aider les couples à trouver un terrain d'entente. Alors, je voudrais peut-être profiter de votre présence un autre micro pour que vous fassiez peut-être un petit récapitulatif des lois en vigueur qui sont données aux femmes qui subissent des violences conjugales pour se défendre, pour trouver des solutions.
Bien sûr. Alors, la nouveauté, je dirais, c'est l'ordonnance du 9 juillet 2010, qui n'est plus très nouvelle, mais quand même, ça permet une rapidité, une efficacité dans les procédures, c'est-à-dire qu'on va pouvoir saisir le juge aux affaires familiales qui va statuer dans les 24 heures et il va rendre une ordonnance de mesures urgentes et ça va permettre, dans bien des cas, d'écarter le conjoint violent du domicile. Et ça, c'était des choses qu'on avait beaucoup de difficultés à obtenir avant. Depuis cette ordonnance, on a plus de facilité à écarter un conjoint violent. Encore faut-il que l'épouse ait le courage d'entamer une telle procédure. Et c'est un petit peu ce à quoi on est confronté vous-même lorsque vous écoutez des femmes qui vous appellent à Noah, oser le dire. Il y a cette peur et cette appréhension des femmes.
Ça suppose, bien évidemment, pour accéder à cette procédure, de porter plainte.
Ah, il faut au moins qu'il y ait une main courante, un certificat médical. Effectivement, il faut qu'il y ait un début de démarche officielle pour pouvoir obtenir du JAF une ordonnance de mesures urgentes.
Alors, ça, c'est la loi. Dans les faits, est-ce que réellement c'est appliqué et rapidement? Et par qui c'est appliqué cette
C'est appliqué par les juges aux affaires familiaux, tout simplement. C'est-à-dire que le juge rend une ordonnance et que si le conjoint ne respecte pas cette ordonnance, on peut appeler la police et faire exécuter cette ordonnance.
D'accord. Ça, c'est important de le signaler.
Alors ça, c'est effectivement la nouveauté qui permet d'écarter un conjoint violent, mais les mesures ne sont que provisoires et il faut entamer derrière une procédure de divorce de façon à ce que les choses soient posées. Et donc, depuis 2005, on a essayé de simplifier au maximum et de raccourcir les divorces. On a notamment, en premier lieu, et c'est la majeure partie des divorces aujourd'hui, le divorce par consentement mutuel, où les deux conjoints arrivent à se mettre d'accord via leurs avocats, hein, puisque la présence de l'avocat est obligatoire dans les procédures de divorce. Donc on prévoit avec les avocats ou avec un seul avocat pour les deux conjoints, c'est aussi possible. On prévoit tous les détails, toutes les conséquences du divorce, toutes les conséquences de la séparation. On prévoit des mesures par rapport aux enfants et également des mesures par rapport au patrimoine, puisque c'est bien souvent ce qui pose problème dans ce type de procédure.
Problèmes financiers, bien sûr.
Alors, il y a un second divorce lorsqu'on n'est pas d'accord sur tout. C'est le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour divorcer. On s'est bien aperçu que finalement, on était au bout de notre relation. Mais on n'est pas d'accord sur les conséquences. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur le mode d'hébergement des enfants, sur le partage des biens. Donc, à ce moment-là, on va simplement dire au juge, au stade de la conciliation, qu'on est d'accord sur le principe du divorce. Et ensuite, le juge va trancher au stade de l'assignation en divorce sur toutes les mesures provisoire et toutes les mesures accessoires, je dirais.
Et alors, un cas bien précis. Si jamais une femme obtient l'éviction du mari du domicile conjugal et que le mari refuse de subvenir aux besoins de la femme et des enfants.
Tout est prévu dans l'ordonnance et comme je vous le disais, bien souvent, on lance une procédure de divorce derrière, c'est-à-dire que les conjoints vont être convoqués en tentative de conciliation. C'est la loi. Et à ce moment-là, le juge va prendre des mesures qui seront inscrites dans l'ordonnance de non-conciliation. Donc le mari devra la plupart du temps contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants au moyen d'une pension alimentaire. Et s'il ne paie pas cette pension, c'est un délit qui est répréhensible pénalement. C'est-à-dire que le mari peut être condamné si la femme dépose plainte pour abandon de famille. Et on peut aller en prison pour ça. Donc c'est un délit extrêmement grave.
Elisabeth, je vous propose qu'on fasse une petite interruption musicale et on prendra cet entretien tout de suite après.
חושב איך אנשים פה מסתכלים עליי לפעמים רוצה למות ומתפלל לאלוהי לפעמים אומר תודה על כל דקה שאני חי לפעמים אני שונא את עצמי כל כך נותן מכה חזקה לעצמי ושוב הפצע נפתח מסתובב עם חיוך מזויף של כאב ופוגע שוב בחברים שתבלי לשים לב זה מושלם, אני פשק על המתח החם אז האם אני שונא פה שווה לכולם לפעמים עדיף שלא לדע לדעת מכלום הדבר הכי קטן פתאום נראה לי עצום שומר דברים בבטן מרגיש כבד כמו אבן אני לא בטוח אחרי סיבוב בכביש תמיד יש קטן שמן קשה לי לקיים אז אני לא מבטיח אני לא שונא אף אחד פשוט רוצה להצליח מיום ליום מתחזק מיום ליום המחור מראה לי שמלא אבל המחל שלי ריק מה אני מעדיף להצחיק או לצחוק לפעמים אני בטוח שעדיף לי לשקוק שוב תקוע בכלוב שהמפתח אצלי בכיס ולא יוצא לסיבוב האם יש סיבה שבגללה שווה להיות כאן עצוב מבחוץ הכל יפה תמיד בפנים הכל רכוב מה נראה לכם שדים תמיד שמח בורח תמיד אופטימי לא נפגע פה ותמיד צולח מחשבות לוקחות אותי למקום אפל ומותח זורק אפול לסטפ קוצים יבש הכל נחלקח אני רגיל לתקופה שהכל דופק כמו פדיש ומשתחרר לי בפנים וחוצה את הכביש משנה גישה קשה חושב על פרישה אני שוכב במיטה כבר איבדתי תחושה מיום ליום מתחזק מיום ליום המחור מראה לי שמלא אבל המחד שלי ריק מה אני מעדיף להצחיק או לצחוק לפעמים אני בטוח שעדיף לי לשתוק מיום ליום מתחזק מיום ליום שזה מליל ומסתפק אני מרגיש שזה ריק מה אני מעדיף להצחיק או לצחוק לפעמים אני בטוח שעדיף לי לשתוק כל הכעס הזה שאתה סוחב איתך ועד לרגע הזה אתה צריך להירגע לתת לעצמך להיות מי שאתה כי זאת לא המטרה, זאת הדרך זה לא בדיוק, זה בערך אין נכון ולא נכון, יש לך קצב משלך תלמד לאהוב קצת את עצמך זאת לא המטרה
Nous reprenons notre entretien avec Maître Elisabeth Stenner. Vous êtes bien sûr à l'écoute de l'émission de l'association Noah Osez le dire. Nous en étions restés aux différentes procédures de divorce. Je crois qu'il en reste deux.
Effectivement, on a parlé du divorce par consentement mutuel, le plus courant, lorsqu'on arrive à se mettre d'accord sur tout. On a parlé du divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, où on est d'accord sur le principe du divorce, mais pas sur ses conséquences. Donc, on soumet au juge d'arbitrer sur les conséquences du divorce. Il y a un troisième divorce qu'on utilise beaucoup depuis 2005. C'est une véritable révolution pour nous. C'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Alors, il n'y a plus de communauté de vie depuis 2 ans. C'est la seule condition. Et 2 ans, finalement, on sait que ça va très très vite. Et au bout de 2 ans, automatiquement, si on prouve qu'on est séparé, on peut obtenir le divorce. Donc, on ne peut plus rester bloqué pendant des années dans un mariage avec cette nouvelle procédure, l'altération définitive du lien conjugal. Et enfin, la quatrième procédure, on peut aller très vite là-dessus, c'est le divorce pour faute. C'est un divorce qu'on connaît bien.
Ça existe encore ?
Ça existe toujours. On n'a aucun terrain d'entente dans ce cas-là. Il y a souvent des violences répétées, des violences physiques, mais aussi des violences morales, puisqu'on a très souvent affaire à du harcèlement moral. Et donc, ça permet de lancer une procédure en divorce pour faute contre un conjoint violent physiquement ou moralement. On peut obtenir des dommages d'intérêt. Et donc, c'est quand même la procédure la plus longue, il faut le dire. Hein. C'est un peu plus long que les autres procédures, mais certaines fois, on n'a pas le choix, donc on s'oriente vers ce type de procédure. Donc, voilà les 4 procédures.
D'accord. Alors, maintenant, on va aborder un point très important, qui est également une violence faite aux femmes. C'est le guette. Le problème du guette. Nous avons, chez Noah, osé le dire, beaucoup d'appels qui concernent l'obtention du guet. Et d'après ce que les femmes nous disent, elles ont effectivement du mal à obtenir ce guet. Alors je sais que vous vous occupez énormément de ce problème en collaboration avec le consistoire. Je voudrais que vous nous en parliez parce que c'est un problème extrêmement important.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes auprès de Noah. Vous m'en faites régulièrement l'écho. Alors ce qu'il faut dire d'abord, il faut expliquer à nos auditrices que le guet, c'est le divorce religieux. En France, on ne peut pas se marier religieusement si on n'est pas marié civilement. C'est la séparation de l'Église et de l'État qui fait cela. Donc on se marie d'abord civilement, ensuite on va se marier religieusement. Et ensuite, lorsque ça arrive, on divorce civilement, mais on doit aussi, et c'est très important et beaucoup de gens ne le savent pas, on doit aussi divorcer religieusement. Parce que même si on est marié civilement et qu'on n'est pas divorcé religieusement, on reste marié religieusement. Donc c'est un sujet extrêmement important. Il faut informer nos auditeurs sur ce sujet-là, l'importance du divorce religieux, qui ne peut intervenir qu'après le divorce civil, sauf accord entre les parties. Et ça, c'est important parce qu'on a beaucoup d'appels de femmes qui ont à peine lancé leur procédure de divorce civil et qui voudraient déjà obtenir le guet. Mais juridiquement, on ne peut pas forcer un mari à donner le guet à sa femme s'il n'est pas encore divorcé civilement. Donc la plupart des demandes que l'on a aujourd'hui, ce sont des demandes de femmes qui nous expliquent qu'elles sont en pleine procédure de divorce civil ou alors qu'elles n'ont pas encore lancé leur procédure de divorce civil et que leur mari est déjà avec une autre femme. Donc elles sont révoltées, on les comprend. Mais malheureusement, tant que le divorce civil n'est pas intervenu, on ne peut pas contraindre un mari, on ne peut pas faire en sorte qu'il donne le guet. Par contre, lorsque le divorce civil est intervenu, là, on a des moyens en droit français pour contraindre un mari à délivrer le guet à sa femme. Alors, comment ça marche ? On a des demandes aujourd'hui au consistoire de ce type, c'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont divorcées civilement depuis 3 ans, 4 ans, et dont les maris, abusivement, refusent de donner le guet. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on saisit les tribunaux civils sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée un dommage à quelqu'un, on doit réparer. Donc, on va aller devant le tribunal civil en expliquant qu'on est divorcé civilement depuis plusieurs années, et qu'abusivement, le mari ne veut pas délivrer le divorce religieux, de sorte que la femme ne peut pas se remarier religieusement, puisqu'elle est bloquée, elle ne peut pas refaire sa vie, et on le sait, l'horloge biologique va très vite. Donc les femmes veulent, et elles ont raison, obtenir leur guet rapidement. Et donc dans ces cas-là, on a une jurisprudence qui est parfaitement constante. Les maris sont systématiquement condamnés à des dommages d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 40 ou 50 000 euros. Donc c'est quand même dissuasif. Quand on obtient une condamnation à des dommages d'intérêt à cette hauteur-là, je peux vous dire que le guet, il arrive très très rapidement après.
Donc les dommages d'intérêt, c'est au niveau civil.
Tout à fait.
Parce que religieusement, d'après ce que je connais, on ne peut pas contraindre un mari à donner le guet à sa femme.
Alors on ne peut pas le contraindre, effectivement. Vous avez raison que c'est très important d'insister sur ce terme. C'est vrai qu'on ne peut pas le contraindre, mais on peut l'inciter. Et c'est comme ça, civilement, qu'on va l'inciter à donner le guet. Et religieusement, il y a d'autres moyens. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que cet homme ne soit plus autorisé à monter à la Torah dans sa synagogue. On peut imaginer que si c'est un enseignant, si c'est un chômeur, si c'est quelqu'un qui a une fonction dans le judaïsme, eh ben, il sera mis à l'écart tant qu'il n'aura pas donné le guet. Et on œuvre dans ce sens, c'est vrai, au sein de plusieurs commissions. Vous l'avez dit tout à l'heure, au sein du consistoire, il y a une commission mixte paritaire qui a été mise en place en juillet 2011, une commission qui est composée à la fois d'avocats et de rabbins, qui se réunit régulièrement et qui étudie les dossiers compliqués. Et effectivement, j'ai une permanence tous les mardis après-midi au consistoire, où je peux recevoir au téléphone ou physiquement les femmes pour essayer de faire avancer les dossiers. Et je peux vous dire qu'on a réglé un certain nombre de dossiers depuis que la permanence a été mise en place au mois de septembre.
Si vous pouviez peut-être donner les coordonnées téléphoniques.
Alors,
si
écoutez, j'ai pas sous la main le numéro de téléphone du consistoire, mais effectivement, on va essayer de retrouver.
D'accord, ben vous me les communiquerez numéro. Et moi je les.
Voilà, mais c'est facile à trouver. Hein. C'est le numéro de téléphone du consistoire, le service des divorces. Vous appelez le 01 40 82 26 80, 01 40 82 26 80. Notamment le mardi après-midi, on pourra vous apporter des réponses. Mais je voulais insister sur un point, Nicole, si vous permettez, c'est sur l'action concertée de plusieurs associations. Il y a évidemment Noah Osez le Dire. Il y a également l'association Mazon et Linda Naïm qui est très active sur ce sujet-là. Il y a le consistoire qui a mis en place cette commission et nous travaillons en étroite collaboration avec le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, qui est très ouvert et qui nous laisse accès à tous les dossiers de sorte qu'on puisse avancer assez bien sur l'ensemble des dossiers qui posent difficultés. Et nous travaillons également en étroite collaboration avec monsieur le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, et son épouse, qui eux aussi ont organisé notamment l'année dernière au mois de mai le Yom Agunot, où ils avaient réuni un certain nombre d'experts qui avaient pu nous informer sur ce qui se fait notamment aujourd'hui en Israël en matière de guet. Et je peux vous dire qu'on a quand même pas mal de retard.
Oui, je sais ça. Elisabeth, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. Je vais vous demander, comme à tous mes invités, si vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet.
Eh bien, je voudrais rendre hommage aux dames de Noah, aux écoutantes, parce que franchement, j'ai eu l'occasion de recevoir notamment à la radio, sur cette même fréquence, des écoutantes, et j'ai été impressionnée par la qualité d'écoute de ces femmes. Donc je voulais vous féliciter, Nicole, à vous-même et à votre équipe, parce que vous rendez un vrai service à la communauté, à des femmes qui sont complètement en détresse et qui, grâce à Noah, vont pouvoir appeler anonymement, parce que bien souvent elles ne veulent pas laisser leurs coordonnées, et elles vont pouvoir parler, elles vont pouvoir être informées sur leurs droits, et ça c'est drôlement important.
Merci beaucoup Elisabeth, vous étiez à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le Dire. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi sans interruption de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr. Vous pouvez réécouter ces émissions. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.